Tunapenda kuhakikishia wenzetu kutuliza kwa kuheshimu hatua zifuatazo za usafi: ni kuosha mikono mara kwa mara na kuangalifu na sulisho la maji yalimo dawa au kwa maji na sabuni. Weka umbali wa angalau mita moja kutoka kwa watu wanaokohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Katika kesi ya kukohoa au kupiga chafya, funika mdomo na pua na viwiko zaidi au na kitambala ya kutupwa mbali baada ya matumizi. Huu ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya ya Umma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkataza wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa coronavirus.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est depuis le 7 avril dernier que le président de la République a créé le Fonds national des solidarités pour la lutte contre coronavirus. Cette structure a pour mission de rechercher et de collecter des fonds qui vont aider à soutenir les malades et le personnel soignant. Cependant, bon nombre de Congolais craignent que ces fonds, que les fonds récoltés soient destinés et soient utilisés à d'autres fins plutôt qu'aux vrais que cela ne serve aux vrais bénéficiaires. Certaines ONG proposent même qu'il y ait une communication régulière sur les montants récoltés et leur affectation. Alors comment s'assurer, comment bien gérer ce Fonds national des solidarités pour la lutte contre coronavirus? C'est le sujet que nous abordons aussi aujourd'hui dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, avec Henri-Christian Nongenja, acteur de la société civile et secrétaire exécutif du collectif 24, une plateforme qui milite pour le droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo. Henri-Christian Nongenja, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors nous parlons aujourd'hui de la gestion du fonds national, de la mise en place du Fonds national des solidarités pour lutter contre coronavirus. En tant qu'acteur de la société civile, d'après vous, comment est-ce que ces fonds devraient être mieux gérés, si on peut le dire ainsi?
Oui, bon, exactement. Je pense bien qu'avant qu'on y arrive à donner comment ça doit être mieux géré, il est important de déceler les problèmes qui se posent pour mieux orienter les perspectives de gestion. Il est vrai que depuis le 7 avril, le chef de l'État a pris l'ordonnance créant ces services-là, mais comme tout acteur de la société civile, nous avons toujours émis des soucis par rapport à la gestion de ces fonds-là, parce que si on ne fait pas garde, nous avons l'impression que la gestion opaque, non transparente de ces fonds-là, risquerait de nous amener les mêmes problèmes qu'on a connus aujourd'hui, qu'on est en train de connaître aujourd'hui avec le programme des 100 jours où les choses se sont faites en précipitation et qu'il n'y avait pas de traçabilité et tout s'est fait dans l'opacité totale. Conséquence, aujourd'hui, on voit les autorités passer devant les juges et que demain, nous craignons que la gestion même de ces fonds-là puisse nous amener aussi dans ce sens-là, parce que les choses ne se font pas de manière transparente. D'abord, il y a un problème de traçabilité, comme vous avez si bien l'introduire en disant que les organisations de la société civile, souvent nous exigeons la redevabilité. Il faut que on donne maintenant chaque jour qui donne quoi, on a eu combien, et ainsi de suite, pour question de traçabilité. On constate par-ci, par-là que les gens réclament qu'on a donné des fonds, mais il y a toujours des problèmes qui se posent. Pas plus tard, le samedi, quelques malades mis en quarantaine à l'hôpital du cinquantenaire ont menacé même de quitter parce qu'ils sont maltraités, tout comme l'hôpital chino-congolaise. Les provinces se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne voient pas clair, il n'y a pas un mécanisme clair qui leur donne pour appliquer les mécanismes du chef de l'État, même au niveau des communes et des bourgmestres. Donc, il y a pas mal de problèmes et certains même, je parie même, il y a même certains échos, je mets en conditionnel, que même l'INRB risquerait même d'être en rupture de réactifs et tout ça, ce qui serait encore grave, alors qu'il y a l'argent, on apprend TPA à donner aux gens.
Oui, Henri-Christian, on avait suivi la Banque mondiale, la banque UBA avait donné, certains députés ont même donné une partie de leur salaire.
Effectivement, on sent que les députés donnent, la Banque mondiale donne, les États-Unis, le gouvernement lui-même a donné un petit montant maudit cahier que nos sociétés civiles nous avions déploré que les Congos ne pouvaient pas donner un tel montant. Mais le plus grand problème, c'est comment on gère pour éviter que le coronavirus devienne le corona business. Alors, c'est comme ça que nous avons pensé que, d'abord, il y a cet argent-là, ça fait partie des finances publiques, étant donné que si vous avez suivi, si les auditeurs ont suivi le président du Sénat, il a même dit que la pandémie va inciter même à un recadrage budgétaire. Cela veut dire que le budget même sera modifié pour qu'on trouve encore l'argent pour mettre dans ces fonds-là. Donc, et par conséquent, ça doit être géré selon les normes des finances publiques, de telle manière qu'il y ait la traçabilité à l'interne. Il est important qu'on ait une commission de contrôle. Les inspecteurs des finances doivent avoir la même mise pour contrôler à chaque instant ces fonds-là, et que il faudrait qu'on évite trop de procédures d'exception, les procédures de marché de gré à gré lorsqu'il faut importer les produits pharmaceutiques ou soit tous les intrants liés à riposte.
Oui.
Donc, tout ça, c'est important qu'on suive vraiment les normes des procédures, parce qu'il s'agit maintenant des finances publiques et qu'il faut qu'il y ait vraiment la traçabilité et qu'on sache combien. Et d'ailleurs, nous pensons même que dans les comités que nous suggérons, dans les comités de contrôle là, et que ces comités soient multi-acteurs, que vous trouvez les bailleurs de fonds qui donnent l'argent, les représentants, la société civile, là, ses représentants, le gouvernement, ses représentants aussi par les acteurs politiques ou les opérateurs économiques, un comité multi-acteurs de contrôle pour se rassurer vraiment de l'affectation de ces fonds-là, pour que demain, ça ne soit pas maintenant comme les 100 jours, on va commencer à déplorer, mais les 100 jours, on les a déplorés maintenant, parce qu'il s'agit de sauts de moutons, il s'agit de constructions, mais ici, il s'agit des vies des gens, et la mésgestion de ces fonds-là a des conséquences sur la vie des gens.
Alors, Henri Christian, par exemple, pour le cas d'Ebola, est-ce qu'il y a eu un comité pareil? Mais on a appris qu'il y a eu détournement des fonds, ce qui a amené même à l'arrestation de l'ancien ministre de la Santé.
Oui, mais effectivement, parce que dans tout ça, le problème est, comme nous avons toujours dit, lorsque les citoyens n'ont pas accès à la vraie information, ne peuvent pas faire le contrôle citoyen, on arrive toujours à ça. Parce que le problème, c'est quoi? On peut avoir ce genre de comité, mais quelles sont les modalités de mise en place de ces comités? Est-ce que les délégués ont été envoyés par leur père de manière démocratique, ou soit on a pris par des combines politiques, on a placé des gens tout simplement parce que il y a de l'argent là, vous allez vous retrouver et on fait des business. Parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, dans la gestion de l'affaire publique, ce sont des coopérants qui sont là et qui s'arrangent pour faire des business. Et c'est ça le grand problème. Et si à Ebola, ça n'a pas marché, c'est parce que les modalités de mise en place de ces comités-là n'étaient pas vraiment transparentes. Et que nous pensons que si les choses se font de manière transparente, avec des critères bien clairs, et qu'on met des mécanismes d'information tels qu'on nous informe à chaque instant, voilà, aujourd'hui, il y a autant des malades contaminés, autant de guéris, autant de décès, et ainsi de suite, qui nous communiquent aussi, voilà, aujourd'hui, notre fonds a atteint tel montant,
oui.
Les ressources viennent de tel bailleur, tel bailleur, tel bailleur.
De tel contributeur, oui.
Tel contributeur, et qu'à ce moment-là, il y a la traçabilité. Et pourquoi pas aussi chercher comment faire la jonction, parce que en matière de lutte contre le Covid, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de religion. Tous, nous militons pour que les vies des gens, les vies des Congolais soient sauvegardées.
Alors, Henri Christian, et voyez, par quels moyens les gens vont contribuer? Faut-il ouvrir des comptes bancaires un peu partout, utiliser aussi les mobile money? Comment, quels sont les canaux par lesquels on peut arriver à recevoir ces contributions?
Ouais, voilà pourquoi, par rapport à ça, j'en viens à la procédure que j'ai aujourd'hui qu'il faut décentraliser. Parce que lorsque les choses sont toujours centralisées, ça fait en sorte que les gens ne savent pas par où commencer. Voilà, par exemple, lorsque le cardinal a lancé le phénomène, l'opération Diakonie, Mais on sait que tout le monde sait que c'est Aline Dongue. On communique les mobiles et les numéros RTL Money, Orange Money, ainsi de suite. Et les gens font là, et ils ont mis leur initiative. Et c'est là où nous disons, mais pourquoi pas faire la jonction entre les deux initiatives? Parce que c'est un fonds de solidarité. Pourquoi pas que les initiatives soient autour d'une même initiative, au lieu d'avoir Diakouni à part, et nous avons les fonds qui est maintenant une institution de l'État à part, parce qu'il est question d'intérêt public. Alors, maintenant, si on décentralise, on sait que maintenant le Covid a atteint même des provinces et que nous craignons que ça puisse toucher toute l'étendue du pays. Mais centraliser ces fonds-là avec des antennes au niveau de chaque province et les provinces au niveau des communes ou des chefferies, ainsi de suite, pour que les gens sachent que si je mets même 10 francs, c'est au niveau de telle commune, dans tel compte que je vais aller déposer. Et voici les travaux que ça doit se faire. Que ce fonds-là, ce n'est pas pour que les gens s'achètent des véhicules, des histoires, épargnent dans leur compte, mais que même pas pour ouvrir les télévisions, qu'on avait télévision, Covid, et tout ça, on n'a pas besoin, mais que c'est pour servir vraiment à la sécurisation et à la protection, voire même au riposte, par rapport à cet ennemi commun.
D'accord. Henri Christian, un moment, on va accueillir les auditeurs. Albert Mwananga nous appelle des Kananga et Jérémy de Lumbashi. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à notre invité. Vraiment, j'ai presque deux préoccupations à se mettre à notre invité. La première chose, d'abord, je salue la volonté de certains députés ou sénateurs qui ont montré quand même la volonté ou les soucis du peuple congolais dans cette lutte contre le Covid-19, en accordant de leurs émoluments, soit la totalité, soit les 30%, donc tout ça, nous avons vraiment encouragé ce genre de gestes. Mais malheureusement, il y a certains députés, d'autres députés qui font semblant de cette pandémie, qui n'ont pas encore donné la volonté ou quoi, montrer leurs gestes tout en contribuant vraiment à cette question. Je salue particulièrement les députés de l'ESSAN qui a
Albert, quelle est votre question? Vous avez déjà salué les initiés, les élans des députés. Maintenant, passez à la question.
Oui, ça fait quand même de la joie, M. Journaliste, de faire passer déjà des messages. Merci. Mais j'ai un peu une préoccupation. Dans notre pays, dans ce genre de situation, en fait, pourquoi beaucoup de gens ont peur de contribuer, hein? Quand même, ils hésitent à contribuer, voilà, si telle est affecté à cette caisse-là, voilà, on n'aura pas vraiment la transparence, il n'y aura rien, voilà, ils vont bouffer cet argent. Vraiment, j'aimerais un peu demander à notre invité pourquoi les gens ont peur de cette contribution. Ils ont la volonté, mais ils ont peur de contribuer parce que ils ne verront pas la traçabilité de la contribution, en fait. Et aussi, heureusement, je suis content aujourd'hui parce que nous suivons l'actualité. La justice, vraiment, va nous aider.
Merci, Albert. Merci beaucoup. On va donner la parole à Jérémy Mwamba de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Jourdi. Bonjour également à l'invité. Je pense qu'il faut saluer ce geste, hein, parce que c'est un geste salutaire lorsqu'on met sur pied. Donc, c'est-à-dire
la forme de nationale de solidarité.
Celle-là pour pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire récolter les fonds, n'est-ce pas, qui pourra peut-être aider le peuple congolais à ce net moment où on est frappé par cette pandémie. Je pense que maintenant, là où les bas blessent, M. Jody, c'est que nous sommes vraiment mal habitués, nous, Congolais. Vous savez, même lorsqu'on organise, il y a l'organisme, par exemple, d'ordre humanitaire, il y a toujours une main noire qui court derrière. Vous savez qu'à cette période, nous devons cultiver l'amour. Ça veut dire l'amour, lorsque chez toi, ça passe bien, regardez un peu autour de toi. Comment votre voisin passe? Il a un problème de maladie. Il est frappé par cette pandémie. Alors, nous devons quand même prendre la conscience. Nous ne voulons pas tomber ou verser dans la malversation et dans l'opacité. À cette période, nous devons nous unir. Et je salue quand même nos autorités, les politiques.
Alors, Jérémy, que ce soit l'opposition, Jérémy Mwamba. D'après vous, comment est-ce qu'on doit, on peut bien gérer? Le Fonds national de solidarité a été mis en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les fonds soient bien gérés?
Je voudrais en venir. Alors, je pense que les politiques congolais il ne faut pas donner toute la confiance à 100%. Il faut léguer cette charge à la confession religieuse. Vous voyez, peut-être. Je pense que ça, c'est un exemple à suivre. On peut donner, on récolte les politiciens. Donc, c'est-à-dire, via nos autorités, ils récoltent les fonds, mais on donne la charge à une confession religieuse. Ça veut dire, là-bas, on va trouver toutes les catégories de gens. S'il faut réunir les différents chefs religieux, on lègue une personne pour récolter ces fonds, mais on ne peut pas laisser ça aux politiciens pour leur fin propre. Alors, le chef de l'État a eu à bien faire, et avec les membres qui l'entourent, c'est bien. Alors, je trouve qu'il faut que le Congrès se tienne le plus rapidement possible pour que l'on puisse recadrer encore les problèmes de budget. Vous savez qu'on a alloué 5% à ce qui concerne les soins. Alors, il faut qu'on les voie, on doit les voir à la hausse, parce que le problème, il est permanent. Aussi longtemps que Madame la pandémie continue encore à dicter sa loi, il faut que nous mettons les garde-fous pour voir clair qu'il y ait la traçabilité exactement.
D'accord, merci Jérémy.
Oui. Comment on doit canaliser ces fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, aider ceux qui sont dans les situations compliquées. Sinon, nous allons rentrer à ce qui s'est passé dans les problèmes d'Ebola et nous allons les regretter parce que lorsque l'étape avance et que le pic touche à son terme, on peut assister au pire. Nous ne voulons pas que le pire arrive, il faut que nous prenions des dispositions adéquates.
Merci Jérémy.
Tout soit...
D'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à Dr Thierry Bobanga de Kinshasa. Bonjour docteur. Docteur Thierry Bobanga, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne, on l'a perdu. Tati va sûrement le recontacter. Monsieur Harry Christian Longenja, qu'est-ce qu'elle pouvait dire à ces deux auditeurs?
Effectivement, je pense que notre frère Albert, tout comme Jérémy, n'ont donné que des contributions. D'ailleurs, Albert lui-même a posé la question tout en donnant la réponse. Pourquoi les gens ont peur de contribuer? Bon, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette traçabilité. Il n'y a pas la transparence et que les gens ne savent pas, ils n'ont pas accès aux informations sur cette gestion et ils croient que si on donne l'argent, ça va enrichir les gestionnaires et par conséquent, pourquoi je dois donner? Donc, cette question d'éthique et Jérémy Mwamba de Lumbashi, quand il voit toujours la main noire, tout simplement, c'est ce que je disais ici. Si le comité dont nous voulons n'a pas bien fonctionné avec l'Ebola, tout simplement parce que ces mains noires-là que lui ne veut pas citer, qui sont les politiques qui s'y mixent, et c'est eux qui veulent se retrouver partout, et conséquence, on arrive à ce genre de dérive et que nous pensons que même il a donné une proposition qu'il faudrait que les confessions religieuses prennent et soient chargées pour récolter ces fonds-là. C'est comme je disais à l'introduction, que vous voyez par exemple la diocèse de Kinshasa, il y a maintenant la diaconie qui récolte pas mal de vivres, ainsi de suite. Il est important de mutualiser toutes ces initiatives autour de ces fonds-là et voir comment on fait une co-gestion multi-acteurs. Et c'est à ce moment-là qu'on va enlever de côté nos égos, nos partis pris, des partis politiques, pour que les choses se fassent de manière transparente et que les contribuables congolais, même celui qui ne donne pas, mais il donne indirectement parce que l'argent qu'on va puiser là dans les budgets de l'État, c'est l'argent du trésor public, ça veut dire que chaque Congolais contribue avec les taxes, les TVA, ainsi de suite. Donc c'est tout le monde qui contribue et que tout le monde doit savoir comment ça doit être géré.
D'accord.
C'est ça le plus grand problème.
Voilà, on va donner la parole à Maître Olivier et Docteur Thierry Bobanga. Les deux sont à Gbadolité. Maître Olivier, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour également à tous les auditeurs de la Radio Capi, qu'on peut l'inviter.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Maître Olivier? Bienvenue.
Merci beaucoup. Je pense que l'entrée du jour, je voulais juste rappeler que tous les grands projets dans ce pays est caractérisé par un problème de détournement énorme et puis un problème de manque de confiance. Si nous prenons le cas même de lutte pour Ebola, nous avons assisté à une série de détournements énormes. Et nous craignons fort à ce que ça ne soit pas le cas aussi pour le coronavirus. Et le mal est fait que si nous comprenons déjà l'étymologie du mot test national, alors nous comprenons déjà que ce n'est pas décentralisé. Si nous parlons de test national, nous devons le décentraliser jusqu'au fin fond. Nous, nous sommes au niveau du maire Ubangi. Est-ce que la population du maire Ubangi, même ceux qui sont dans la ville, ceux qui sont dans les communes, ceux qui sont dans les certains, ne peuvent pas contribuer? quelles sont les stratégies qu'on peut monter. Moi, je pense que c'est mieux de commencer aussi à organiser des stratégies par rapport à ce que même ceux qui sont au fin fond du village, puisque quand nous parlons de pêche nationale, ça touche même le port et coin du pays. Ceux qui sont au fin fond du village puissent contribuer. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut commencer à monter un comité de suivi. Dans ce comité de suivi, nous devons faire le nécessaire possible afin que le monde de l'Église, la société civile, même les représentants de la jeunesse puissent même se figurer dans ce comité de suivi. Et de finir, je pense que c'est aussi mieux afin que la population puisse être au courant à tout point de vie, à tout point de mouvement. Puisqu'il y a une base qui dit, si vous faites quelque chose pour nous et que vous le faites sans nous, vous êtes contre nous. Et si la population n'est pas au courant de tout ce que vous faites, c'est pas seulement de donner les statistiques de Bola aujourd'hui, nous sommes à 245, mais donner aussi, ils sont des contribuables, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, combien on a détecté, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il faut faire. La population pourrait aussi avoir une sorte de mesure de contribution par rapport à tout ça. Voilà un peu en tête de lui ma contribution.
Merci, Maître Olivier Degbadolité. Docteur Thierry Bobanga, vous êtes plutôt à Kinshasa. Bonjour. Docteur Thierry Bobanga, bonjour.
Bon.
Voilà, on vous écoute. Bienvenue. Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi je dis ça. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir invité. Attention à tous les auditeurs de Radio Capi. Moi je vais intervenir à deux niveaux. La première, c'est très bien d'avoir une caisse de solidarité nationale par rapport au Covid-19. Ça, c'est une bonne initiative. Je pense que les gens doivent un peu se calmer parce qu'il y a une agitation. Mais je pense que la plus grande solidarité, la plus grande contribution, c'est la paix.
Désolé, docteur Thierry, la communication n'est pas très très bonne. Tati peut-être va voir comment s'en occuper. Alors, nous donnons la parole à Henri-Christian Longenja. Vous avez suivi Maître Olivier Degbadolité et demande quelles sont les stratégies des collectes des fonds. Comme il s'agit d'un fonds national de solidarité, ça veut dire qu'il faut toutes les provinces doivent contribuer. Mais quelles sont les stratégies pour arriver à mobiliser le fonds jusqu'au plus bas niveau?
Oui, ben effectivement, je pense que Maître Olivier n'a fait qu'appuyer les stratégies que nous venons de donner, notamment la question de la décentralisation. Il ne faut pas que ça soit seulement l'affaire du comité national. Il faut qu'on aille aussi au niveau des provinces, au niveau des communes, au niveau au niveau des ETD, et qu'il faut qu'on aille un comité de suivi, comme je disais, et que ça soit un comité multi-acteur. Et il a évoqué aussi la question d'information. Ça, c'est vraiment l'aîné de tout, parce que si les citoyens ne sont pas bien informés, et donc ils ne seront même pas motivés pour contribuer. Et même lorsque les contributeurs, lorsqu'ils donnent leur argent, il faut dire aussi que cet argent est orienté pour ça. Il leur dit, par exemple, que voilà, par rapport à votre contribution, nous avons acheté, par exemple, autant de respirateurs. Par rapport à votre argent, nous avons acheté telle quantité de réactifs, ainsi de suite. Et que les gens soient informés et vraiment de manière transparente, je pense bien que ça va motiver tout le monde. Bon, mais lorsque, malheureusement, la communication avec le docteur Thierry n'est pas bien passée, mais j'ai retenu quand même un mot qu'il parle, que les gens s'agitent. Les gens ne s'agitent pas. Les gens ont une mauvaise expérience. Les gens ont l'impression que, comme je disais, ceux qui nous dirigent, ce sont les coopérants qui cherchent de l'argent et qui font des copes même partout, et que lorsqu'on lui confie une responsabilité, la première des choses, c'est comment je deviens millionnaire, comment je dois détourner. Et c'est ça, cette mauvaise expérience qui va craindre aux gens que ici, Covid, c'est question de la vie. Il est question de nos vies. Et qu'on ne peut pas blaguer de nos vies comme on a blagué avec les sauts de moutons, comme on a blagué avec les 1000 écoles et tout ça, ce sont des infrastructures qu'on peut récupérer. Mais si quelqu'un a perdu sa vie, et c'est fini, il est parti. Donc il est là, c'est pas question d'agitation, mais il est question vraiment d'éthique, que ceux qui dirigent savent bien qu'ils ont affaire à la vie des gens et qu'ils doivent être transparents pour rassurer tout le monde, et que je pense qu'une co-gestion de cette caisse-là, de manière multi-acteur, et la mutualisation des initiatives avec les églises, ainsi de suite, ça serait une bonne chose. et la société civile.
Bien. On va accueillir Mati de Bounia et Dieu merci Raymond de Béni. Mati, bonjour. Mati, vous êtes à Bounia, bonjour. Mati n'est plus là. Nous allons donner la parole à Dieu merci Raymond de Béni, bonjour.
Bonjour à notre invité, bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs de la radio Kapi.
Bienvenue, alors, Dieu merci. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus?
Alors, ça peut perdre le temps. Moi, j'ai des questions, ne fût-ce qu'une, trois ou quatre questions comme ça à poser à notre invité et à tous ceux qui vont intervenir à la radio Kapi. Maintenant, ma toute première question est reprise de cette manière.
Oui.
Est-ce que lorsque on donne ou soit on contribue pour sauver les âmes de la nation congolaise, est-ce qu'il y a un groupe ou soit une association de suivi de cette somme-là donnée par une solidarité ou soit par un volontaire? C'est la toute première question.
Oui, la deuxième.
Ok, la deuxième question est celle-ci. Est-ce que cette somme-là donnée par la solidarité ou soit donnée par les volontaires, est-ce que la somme-là part directement à la destination ou soit cette somme-là est destinée aux gens ou soit à ces gens-là qui travaillent à la santé ou soit à ces docteurs? Parce que nous voyons ici, nous avons constaté en cas d'Ebola. À la période d'Ebola, il y a une multitude de docteurs, il y a une multitude de travailleurs, même des communautaires qui ont construit des maisons. À part des maisons, ils ont fait exister, ils se sont enrichis eux-mêmes avec la somme là contribué en matière de gérer la situation d'Ebola de l'année passée. Et maintenant, nous posons maintenant des questions. Quand il y a COVID-19, est-ce que on ne peut pas encore aboutir au même problème qu'on a fait face à Ebola? Alors, il y a la question que je voudrais poser à notre invité. Est-ce que la somme là donnée par la solidarité est destinée aux malades, soit aux personnes vulnérables, soit à des docteurs et à des agents qui travaillent au riposte?
D'accord.
Alors, ça, c'est la deuxième question. Ma troisième question est celle-ci.
Oui, allez-y rapidement.
Ok, merci. Ma troisième question est celle-ci. Est-ce que vraiment nos autorités de...
Oui, Dieu merci. Quelle autorité? Bon, il y a une coupure, désolé. Docteur Thierry, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Bon, moi, je ne sais pas.
Docteur Thierry, désolé, la communication est toujours mauvaise avec vous. Peut-être qu'il faut changer, trouver un autre téléphone ou vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que la liaison téléphonique peut s'améliorer. Voilà, nous rappelons. Entre-temps, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez aussi participer à cette émission en composant le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Comment bien gérer le Fonds national des solidarités pour la lutte contre coronavirus? Monsieur Henri Christian Longenja, vous avez suivi les préoccupations des dieux merci. Et puis, il y a également Maître Olivier qui est revenu sur le suivi. On peut bien donner l'argent, on peut bien contribuer, mais comment faire le suivi pour s'assurer que les choses se passent bien et l'argent est bien géré?
Ouais, bon, effectivement, je pense bien que lorsque, d'abord pour question de suivi, il est question aussi de contrôle. Et le contrôle, comme d'habitude, doit se faire à plusieurs niveaux. Il y a le contrôle institutionnel, notamment où nous avons la Cour des comptes. Il faut aussi que les inspecteurs des finances fassent bien leur travail. Il ne faut pas que ce soit comme à l'époque des 100 jours où les inspecteurs veulent enquêter et puis on dit non, pas question de faire obstruction aux travaux des inspecteurs. Il faut que les inspecteurs des finances fassent les contrôles. En même temps, nous, société civile, nous devons continuer avec les contrôles citoyens. Parce que l'histoire des 100 jours ici, du programme des 100 jours, ni t'étais les contrôles citoyens de la société civile, on n'allait pas arriver à de tels résultats aujourd'hui. Donc ça veut dire que même là où nous craignons, avec l'expérience du programme des 100 jours, avec l'expérience de plusieurs projets, voire même l'expérience d'Ebola que Dieu merci évoquait, il est important que la société civile, à tous les niveaux, on va décentraliser, puisse faire le suivi, faire le contrôle citoyen. Mais la seule difficulté, c'est que, est-ce que la société civile va accéder à des informations? Est-ce que les portes des gestionnaires seront ouvertes pour être transparentes et donner les documents à la société civile? C'est ça la question la plus fondamentale, surtout qu'on n'a pas encore la loi d'accès à l'information. Alors, donc, il est important que les comités, là, d'ailleurs, devraient même s'engager à sur honneur d'être transparent et d'être plus ouvert à la population. À ce moment-là, tout le monde fait le suivi et la société civile, il y a même un groupe thématique de la société civile qui s'occupe des questions de la santé, que même nous qui sommes dans les finances publiques, nous devons faire le suivi et à ce moment-là, sortir les rapports. Est-ce que l'argent est donné directement à des destinataires, donné directement à des destinataires, soit aux personnes qui travaillent, les ministères et les ministères, parce qu'il a vu que par rapport à Ebola, les gens se sont enrichis ainsi de suite. C'est justement ce que nous avons déploré à l'introduction de cette émission, pour que le coronavirus ne devienne pas le corona business. On a vu comment les gens ont entassé l'argent, voire même pour avoir les macarons pour accéder dans la commune de la Gombe, il y a eu même les gens qui ont dépensé de l'argent. Donc, il ne faut pas que ce soit l'occasion que les gens puissent s'enrichir. C'est une mauvaise expérience, bien sûr, mais il est important que si nous tous, nous nous mobilisons pour contrôler et surveiller, à ce moment-là, on sera en sorte qu'on n'arrive pas à ce genre de choses. Mais cet argent, je pense que ce n'est pas destiné à distribuer à tout le monde. Il y a l'ordonnance du chef de l'État qui définit bien les attributions ou soit la destination de cet argent, mais je pense que c'est plus pour tout ce qui concerne le riposte, les traitements des malades, la prévention, les équipements, donc et tout ça concerne cet argent. Et sur d'autres sièges, si vraiment tout le monde est contribué et qu'on a des milliards, pourquoi pas prendre en charge les charges sur lorsque on va confiner les gens et puis essayer de supporter par-ci, par-là, ainsi de suite. Mais la priorité d'abord, c'est vraiment pour les équipements,
les respirateurs, tout ça, les médicaments.
Les respirateurs, les médicaments, les traitements des malades et l'accomplissement des mesures préventives. Donc ce n'est pas l'argent à distribuer aux gens. Au contraire, on a besoin que les gens viennent donner cet argent. Et parce que nous donnons, nous devons exiger la transparence et la redevabilité.
Bien, on va donner la parole à Pierrot Pagna de Lubumbashi et à Joël de Mahagi. Pierrot, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Pierrot Pagna, quelle est votre question?
Ma question est de savoir comment le gouvernement veut réagir et à quelle position on peut situer les conditions de coronavirus établi au Congo.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Pierrot?
Ma question est de savoir.
Oui.
J'ai une question à poser à l'AGP.
Laquelle?
Comment pouvons-nous avoir confiance sur le gouvernement? Et à quelle disposition le gouvernement peut-il nous établir?
Voilà, comment faire confiance au gouvernement par rapport à la gestion de ces fonds, j'imagine. Merci. Joël de Mahagi, bonjour. Joël, vous êtes à Mahagi, bonjour. Il n'est plus là. Henri-Christian Longenja.
Oui, effectivement, Pierrot, bon, c'est une question qui se pose souvent que dans nos pays africains. Parce que dans les pays normaux, la population doit avoir confiance à son gouvernement. Mais ici, c'est parce que chez nous, les gouvernements, nos politiciens ne prêchent pas, par exemple. C'est comme ça qu'on a cultivé cet esprit-là de méfiance, à tel point que
même l'acteur politique, un membre du gouvernement peut vous dire la vérité, la population va dire toujours que c'est du mensonge. Parce qu'on ne prêche pas, par exemple, et je pense que cette attitude-là doit interpeller nos hommes politiques, et c'est tous ceux qui nous dirigent. Parce que actuellement, je me dis, l'unique source où nous devons nous informer par rapport au COVID-19, c'est la source officielle, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit multiplier des efforts pour que les gens, même au fin fond, que à Lubumbashi, partout, les gens soient bien informés. Et je pense que c'est ce que même au niveau du collectif 24, nous avions décrié bien avant que la santé va de pair avec l'accès à l'information. Si les gens ne sont pas bien informés, à ce moment-là, il y a toujours méfiance. Et il en est de même en ce qui concerne la gestion de ces fonds-là. S'il y a une bonne communication, une communication transparente, si on développe les mécanismes de redevabilité, comme disons là qu'il faut décentraliser, il faut un comité multi-acteur, il faut à chaque instant communiquer les montants des contributeurs et la destination de cet argent-là, et que tout le monde voit comme on fait à l'église, j'estime bien qu'il y aura la confiance, ne serait-ce qu'à ce stade-là. Mais lorsqu'on assiste et qu'on sent que tel pays a donné, la Banque mondiale a donné autant de millions, les États-Unis a donné, le gouvernement a donné, et qu'on assiste à des scènes qu'on a vécues le samedi à l'hôpital du cinquantenaire où les malades veulent sortir parce qu'ils ne sont pas bien traités, c'est désolant et ça renforce la méfiance. Je pense bien que ceux qui ont la charge de gérer ces fonds-là ont du pain sur la table pour essayer quand même de réaménager les tirs et créer plus de confiance en communiquant plus, en donnant plus des informations, et à ce moment-là, de manière transparente, la population va cultiver quand même ce sentiment de confiance.
Bien, on va accueillir professeur Robert Ndiabadila de Kinshasa. Bonjour professeur.
Bonjour bien-aimé.
Bienvenue dans cette émission. Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi je pense que quand l'État... C'est la présidence qui a dégagé, qui a ouvert ce comité qui doit réunir les frais qui viennent des autres pays, d'ailleurs la Banque mondiale, et tout ça. Bon, comme ce sont des grandes institutions, la cellule doit se connecter directement à choses...
Au comité de riposte?
Oui, au comité de riposte. Le comité de riposte doit être audité par notre système habituel.
La Cour des comptes?
La Cour des comptes. La Cour des comptes. Pourquoi? Parce que les gens qui ont contribué, qui sont à l'international, quand ils veulent voir un feedback sur ce qu'ils ont envoyé et qu'est-ce qu'ils en ont fait, c'est la Cour des comptes qui doit nous aider et qui est en même temps l'organe du Parlement. Hein? Il faut qu'on travaille de manière transparente, de façon qu'on puisse avoir encore confiance en nous. Parce que quand on a mal géré, les 100 jours, vous connaissez ce qu'il en sort.
Oui.
Saute-mouton, c'est aussi une gestion. Donc, ça signifie que il faut que l'État lui-même puisse travailler et travailler avec sa Cour des comptes, son organe de contrôle, de manière que ce qui entre doit être connu et contrôlé.
Alors, professeur, faut-il remettre, par exemple, des reçus ou des preuves de paiement à tous les contributeurs?
Oui, c'est ça la transparence. Les contributeurs, qu'ils soient internationaux ou nationaux, donc le comité qui est chargé de recevoir toutes ces contributions doit créer un système de gestion, un système, un caissier, qui est national, un comptable d'État qui doit faire la comptabilité et verser dans un compte en banque qui doit être contrôlé par la Cour des comptes et qui doit être aussi, surtout, contrôlé par le Parlement.
Est-ce que les contributeurs eux-mêmes doivent aller directement dans les différentes banque verser de l'argent ou bien...
Oui, on peut leur donner aussi le numéro de compte.
Oui.
Dès que le numéro de compte est ouvert, hein, la banque ouvre ce numéro de compte pour tous les contributeurs, quels qu'ils soient, nationaux ou internationaux. Alors, on va travailler et on va aider le Congo. Parce que cet argent, ça ne pas des petits montants quand on parle de la Banque mondiale, quand on parle de l'OMS. Hein? Mmh. Ce sont des énormes sommes d'argent qui doivent être connues par l'organe délibérant et qui doivent être contrôlées par la Cour des comptes de façon que la traçabilité soit bien dégagée.
Merci, professeur Robert Ndiabadila de Kinshasa. Chiko Mputu, vous êtes à Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Dodi. Ce n'est pas Chiko Mputu, c'est Chiko Bassa. Je suis ici à Kinshasa.
Pardon, c'est Chiko Bassa.
Chiko Bassa, Chiko Bassa.
Chiko Bassa. Voilà, Tati, il faut veiller à cela. C'est Chiko Bassa et non Chiko Mputu de Mbandaka. Il est à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Chiko?
Oui, merci beaucoup pour la parole, monsieur Dodi. Je pense que dernièrement, j'avais suivi sur une chaîne ici à Kinshasa qu'il y a un compte qui a été ouvert par le Premier ministre pour le Fonds national pour la solidarité. Ce matin même, quand je me suis connecté sur votre page de la radio Capi, je vis des numéros verts donnés pour les gens qui veulent contribuer pour ces fonds.
Oui.
Mais la question que je me suis maintenant en train de me poser, c'est de savoir comment pouvez-nous savoir que ces fonds est bel et bien géré tant que l'INRB est en train de déplorer l'insuffisance des respirateurs. Et de l'autre côté, les gens qui s'occupent des malades se plaignent à tout moment qu'il y a une négligence de la part du gouvernement de ne pas bien les équiper avec les masques. Ils ne savent pas comment s'occuper des patients. Comment maintenant la population peut s'assurer que ces fonds sont bien gérés? C'est ça un peu mon inquiétude.
Bien, merci Chiko de Kinshasa. Henri-Christian Longenja.
Oui, effectivement, d'abord c'est à remercier M. Chiko et Prof. Robert. Bon, je pense bien que par rapport à l'intervention du Prof. Robert, c'est bien, c'est comme nous avons dit, qu'il faut que la cellule se connecte avec l'équipe de riposte. Il faut que la Cour des comptes fasse son travail. Mais moi, je pense que le contrôle ne doit pas être unidirectionnel. Il faut que le contrôle soit vraiment multiple avec plusieurs mécanismes. Parce que vous savez, nous suivons les finances publiques. La Cour des comptes, depuis qu'elle existe, n'a jamais publié un rapport. Aucun rapport, depuis que la Cour des comptes existe. Mais la Cour des comptes a fait des rapports, mais aucun rapport n'a jamais été publié. Donc, c'est un grand défi. Et face à cette situation, nous pensons qu'il faut accompagner la Cour des comptes qui a ses prérogatives, bien sûr, que l'inspection des finances aussi entre aussi dans les jeux, sans oublier les contrôles citoyens, parce que il faut qu'il y ait quand même un contrepoids. Et nous avons même émis, à un moment, nous avons montré société civile de discuter. Pourquoi pas qu'on avance l'idée que la société civile, nous sommes en train de pousser pour qu'on crée le parquet financier. Parce qu'on a la Cour des comptes qui voit que les comptables, tout ça, mais si on a un parquet financier qui peut se saisir de tous ces cas-là de détournement des fonds, tout ça, ça serait une bonne chose. Et je suis aussi tout à fait d'accord que les contributeurs doivent avoir des récépissés. Lorsque je donne mon argent, on doit me donner récépissé et que pour nous permettre, nous, sociétés civiles, à faire le contrôle citoyen, je pense qu'il est important aussi qu'on mette un mécanisme, un système où chaque contributeur publie son récépissé, donc comme on fait à l'ITIE, publier ce que vous payez, ici publier ce que vous contribuez. Comme ça, on saura, il y a un répertoire, chacun publie le récépissé, on saura faire des balances par rapport à des récépissés publiés par les contributeurs et les déclarations faites par la cellule, et à ce moment-là, nous allons voir s'il y a la transparence ou pas. Et par rapport à ce Chico, ouais, c'est comme nous avons dit. En fait, il faut ici qu'on donne un numéro. La cellule doit donner un numéro de compte unique. Bien sûr, ça peut être un numéro de compte avec des sous-comptes parce qu'il peut avoir plusieurs monnaies.
Mais il ne faut pas qu'on ait la cellule avec son numéro de compte, le premier ministre avec son numéro de compte. Tout ça, on va assister à ce que nous avons vu de triste mémoire avec le phénomène des 100 jours où l'argent passait de compte à compte et tout ça. Et aujourd'hui, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Et conséquence, vie énervée, non seulement qui se plaigne ne pas avoir assez de moyens, ainsi de suite. Et il y a même des rumeurs, que l'INRB risque d'être à court de réactifs pour faire les tests. Pour faire les tests. Alors si aujourd'hui l'INRB n'a pas de réactifs, comment on va tester? On est en train de confiner les gens. Chaque jour, on aura des cas. Comment on va tester? L'INRB sera, ça sera la banque pleine des échantillons là-bas qu'on ne teste même pas. Et même alors, ceux qui sont déclarés malades ou soit qui sont en quarantaine ne sont pas bien traités. Tout ça, ce sont des indices qui nous font craindre nos sociétés civiles pour dire que ça commence mal. La cellule doit se ressaisir, entrer en contact avec l'équipe technique et associer vraiment tous les acteurs pour voir comment gérer cette histoire. Sinon, ça sera catastrophique. Et ici, ce n'est pas seulement les étrangers. C'est un fonds d'une caisse nationale de solidarité. Ça veut dire que même moi, fonctionnaire, je peux dire, bon, on me paye les 300 000 francs. Bon, je peux donner même un 10 000 francs. Et c'est question qu'on me communique les numéros. Et tout fait non.
D'accord.
Mais pour montrer qu'on est dans la solidarité.
Dans la solidarité.
Sans la transparence, sans quoi, à ce moment-là, on cultive la méfiance et ce n'est pas bon.
Henri Longuenja, on va accueillir des auditeurs. Omer de Harou et Michel Ekongo de Mbandaka. Omer, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Je ne sais pas si vous me captez bien.
Oui, oui, je vous capte bien. Omer, bienvenue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Monsieur Jordi, nous sommes en train de saluer cette initiative pour les. Pour question de collecter les fonds pour lutter contre la pandémie coronavirus. Le problème va se poser maintenant au niveau des gestion de ce fonds.
Oui. Quelle est la question rapidement, comme on a pris beaucoup de temps, on est presque à la fin de la première partie.
Bon, j'ai seulement une petite contribution. J'avais voulu, comme l'invité avait dit, il faudrait qu'on puisse décentraliser
la gestion.
Je voudrais qu'on puisse le faire à travers, par exemple, le Caritas catholique, parce que cette structure se trouve au moins partout.
Partout à travers le pays, et cette structure a fait ses preuves dans la gestion.
Alors, c'est ma contribution.
Merci beaucoup. Michel Ekongo, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue Michel, quelle est votre préoccupation?
Voilà, je dis ma question part tout droit chez notre invité pour dire qu'il vient de dire concernant la composition des comités au niveau des provinces et partout. Bon, moi, il y a une question pertinente. Ici, à la province de l'Équateur, nous avons plusieurs partis, autrement dit, sortes de sociétés civiles. Et entre eux, ils ne parlent pas le même langage. Pourquoi? Parce que les uns sont derrière les politiciens, les autres sont considérés comme les vrais opposants ou les vraies sociétés civiles, si vous me permettez. Voilà. Comment, à ce niveau, au niveau de la province de l'Équateur, composer un comité qui va peut-être veiller à ce que les moyens collectés ou les fonds collectés par la population soient
bien gérés,
surveillés. C'est ça la première question. La deuxième question.
Oui, rapidement.
Malgré nous parlons de la contribution de la population, pourquoi il y a des financements de la France, des États-Unis et par-ci par-là? Et pourquoi le comité de riposte n'arrive pas à maîtriser la situation, bien qu'on a déjà on avait déjà pris les dispositions avant qu'on déclare le premier cas au niveau de la République démocratique du Congo? Et puis une suggestion, si vous me permettez, la radio Capitaine essayait de de modifier un peu sa grille pour essayer d'insérer des sketchs ou soit des émissions en lingala et en langue swahili pour voilà. permettre à ces plusieurs
des émissions de sensibilisation
de la radio Capi puisse avoir vraiment la connaissance et puis
sur coronavirus
savoir comment
merci Michel Henri Christian, on va vous retrouver, on va vous donner la parole tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons souffler un tout petit peu en musique et puis on se retrouve après.
Bitoke zabisa na nkangu nyo soti, ba uvwanda ndembama, kansi ba uzitisa bantiku ya bunkete yae, ya ntete. Kuyobisa ntangu nyo soma boko mpe kuyobisa ya umbote, na sabuni mpe na maza kele na bilongo, to ina kele na alkohol. Ya zole, kuvanda na metre mosi na muntu, ke kosula to ina ketatia. Kusimba mezove, mbombove, pe munokove. Kana muntu ke kosula to yandi ketatia, yandi fwana kutula diboko na munoko mpe na mbombo, na mushwa, yandi losa ya umbala mosi na nima kusadila. Ya ikele ntete. Sangou ya ministère ya santé ya République démocratique ya Congo.
Il est 11h à Kinshasa.
Je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à nos staffs, à ceux qui nous sont chers, à tout le monde, il ne faut pas paniquer, mais il faut absolument écouter ce qu'on vous demande et protégez-vous, protégez les autres, ne prenez pas de risques. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à demander à ceux qui peuvent vous aider. Je dis aussi que la quarantaine n'est pas une menace. La quarantaine est une mesure de prévention. Ça permet d'identifier les contacts. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai contacté quelqu'un ». Parce que parfois, les gens, ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur qu'on les identifie comme malades. La quarantaine nous permet d'éviter la propagation. Si les gens sortent de la quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maladie. S'ils avaient la maladie, ils ne sortent pas. Ils sont mis dans un endroit où ils sont isolés. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas cacher qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme malade. Au contraire, il faut le faire. Il faut faire attention parce que c'est ça le message. Le message, on va gagner. Regardez les pays de l'Asie. C'est les premiers qui ont été affectés. Qu'est-ce qui leur a permis de maîtriser la maladie? On le voit dans toute l'Asie. C'est quelques cas qui restent parce qu'ils ont respecté les instructions qui ont été données par leur pays. Donc je vous demande, c'est le message que j'envoie, nous sommes ensemble, c'est une maladie qui va affecter tout le monde si on ne fait pas attention et si on ne prend pas les précautions pour réduire la propagation du virus.
Ceci est un message de Mme Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO.
Bien, nous poursuivons cette émission au Capi Service New Look, c'est la deuxième partie. Le sujet du jour, comment bien gérer le Fonds National des Solidarités pour la lutte contre coronavirus. C'est depuis le 7 avril que le président de la République a créé ce fonds pour lutter contre le Covid-19. Cette structure a pour mission de rechercher et de collecter des fonds qui vont aider à soutenir les malades et le personnel soignant. Cependant, bon nombre de Congolais craignent que les fonds récoltés soit utilisé à d'autres fins plutôt que pour aider les malades, soigner les malades et puis acheter les équipements et autres. Alors certaines ONG proposent même qu'il y ait une communication régulière, qu'il y ait une certaine redevabilité par rapport au montant récolté et leur affectation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir la bonne gestion de ces fonds de solidarité nationale? Nous en parlons avec Henri Christian Longenja, acteur de la société civile et secrétaire exécutif du collectif 24, une plateforme qui milite pour le droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo. En ligne, nous avons Kachai de Kanyoka, Olivier de Bokungu et Glody de Bandundouville. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue, Kachai. Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Une gestion saine de la caisse du fonds de solidarité à coronavirus nécessite la présence des personnes responsables et vertueuses. Responsables, monsieur Jody. Au regard des actes qu'ils pourront poser par rapport à la gestion de ces fonds, et vertueux dans la mission qui leur est confiée pour normalement gérer la caisse sans que le parcours ne soit parsemé d'embûches. Alors, avant que l'invité ne parle, je lui pose un peu cette question, monsieur Jody. Comme cette fois-là, beaucoup de gens qui sont venus donner leur contribution, les uns donnés au secrétaire la riposte Jean-Jacques Muyembe, les autres, les uns au secrétaire Jean-Jacques Muyembe, les autres au ministre de la Santé, n'a-t-il pas moyen que la gestion du fonds soit confiée à la Banque centrale pour que le gouvernement lui-même, la banque, ensemble avec l'équipe qui l'entoure, puisse gérer, parce que tout ce qu'on donne, on remet le chèque au gouverneur de la banque. C'est mieux que le gouverneur de la banque lui-même puisse gérer afin d'éviter toute malversation financière, les actes de prédation et de prévarication de ces fonds-là, parce que le pays fait face à un ennemi que nous ne savons pas qualifier du coronavirus. Deuxième question, monsieur Jody, c'est pour un peu savoir le degré d'application de ces fonds-là au niveau local. C'est seulement à Kinshasa, nous suivons, les gens viennent avec leurs contributions. Mais dans les provinces, je ne sais pas ce qui est prévu pour qu'au niveau des provinces, que les gens, comme moi aussi qui vous parle, je vais pas avoir ma petite contribution d'$1. Je vais donner à qui et je vais déposer dans quel compte? Maintenant, on peut déjà nous dire, mais je souhaite toujours que la Banque centrale, comme il y a des directions provinciales des banques centrales, au niveau des provinces, on peut confier tout simplement la gestion du fonds à la banque pourvu que si Kachai a aussi le souci de contribuer à la lutte contre le coronavirus, il peut aller directement verser dans les comptes de l'État, la banque considérée comme caissier d'État.
Merci.
Et dans ce sens-là.
Merci Kachai. Olivier de Bokungu, bonjour. Bonjour Olivier. Il n'est plus là. Glody Bouanganga de Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue, Glody, quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, monsieur Jody. Vous savez bien qu'au Congo, nous, Congolais, on est ennemis de ces pays. Pourquoi j'ai dit ça? Prenons l'exemple de la ville de Bandou, le cinquantenaire qui vient de se passer récemment ici. On a y contribué beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, on n'a pas vu même là où est parti de cet argent-là. On a vu beaucoup de personnes s'enrichir en achetant des parcelles, en changeant des véhicules, en changeant des habits. On ne sait pas. Et peut-être nous, le peuple bandundois ou le peuple congolais, on est découragé dans des pareilles cotisations. Alors je pose la question à notre invité. qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir la transparence de cette cotisation-là? Parce qu'aujourd'hui, on peut se poumonner d'aller contribuer, demain ou après-demain, on ne sait pas la suite de cet argent-là. Comment cet argent-là est manipulé, comment cet argent est géré, on ne sait pas. Alors, à mon avis, j'ai voulu poser la question à notre invité s'il peut nous aider. Par exemple, ici dans la ville de Bamili, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer cet argent-là? Ou par exemple, si vous avez cette cotisation-là ou cette caution-là de contribuer, on va donner ça chez qui et on va payer ça où? Et quel serait le preuve de paiement par rapport à ces paiements-là? Si l'invité peut nous aider, afin de comprendre, parce qu'on est Congolais, cette maladie-là ne dérange pas seulement le Congo, ça dérange le monde entier. On est prêt à contribuer, mais nous devons avoir quand même la vraie gestion. Parce que ce qui dérange le pays, c'est la mauvaise gestion. Vous pouvez contribuer, mais certaines personnes s'enrichissent avec cet argent-là. Ce que nous ne voulons pas, c'est ça. Cette fois-ci, on va faire encore confiance. Mais si encore des détournements, monsieur Jody, sachez bien qu'on ne va pas plus faire confiance à des pareilles cotisations. Je dis et je vous remercie.
Bien, merci Glody. Kunda, Derek, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation par rapport au sujet du jour?
Moi, ce n'est pas une préoccupation, moi, c'est une contribution.
Oui.
En fait, nous devons établir une différence entre la gestion d'un projet de développement et un projet d'urgence. Coronavirus, c'est un projet d'urgence. En fait, les fonds que nous allons collecter là, nous n'allons pas gérer ça de la même façon qu'un projet de développement. Ça signifie quoi? Si on cherche qui est la séparation des tâches, un groupe de gens qui contrôlent, un groupe de gens qui achètent, ça va alourdir l'exécution des dépenses. Parce que les gens là qui disent qu'il faut qu'il y ait un contrôle, ils ne vont pas seulement demander la facture. Ils vont vous dire, non, quand vous avez acheté de l'eau, comment est-ce que vous avez distribué ça? Montrez-nous là où les gens ont signé. Non, non, on ne gère pas ça. Pour gérer un projet d'urgence, ou bien les cas de coronavirus, il faut qu'il y ait des exceptions. Donc nous devons seulement avoir confiance aux gens là qu'on a choisi, ou la cellule de gestion de la crise sanitaire. C'est ça ma contribution.
Merci Kunda Derek de Kinshasa. Olivier de Bokungu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue Olivier, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité. Certainement, la contribution concerne tout peuple congolais.
Oui.
Maintenant, nous avons des lieux où nous n'avons pas de compte, de compte bancaire ni de M-Pesa. Comment contribuer à cette évolution?
Bien, merci Olivier. Comment contribuer là où il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de système de mobile money? Voilà. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne, Moulaya, il nous appelle de quelle ville Tati? Il doit être certainement à Lubumbashi. Moulaya, bonjour. Oui. Moulaya, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Serge, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Tati, particulièrement ceux qui sont dans la base qui Goma, Koué, Kingakati.
Moulaya, quelle est votre préoccupation?
Voilà, je trouve que ce sont des mesures très salutaires. J'interprète ce qu'on dit chez nous, un seul bracelet ou un bijou tel au bras n'était pas clocher. Ces mesures retenues par le chef de l'État sont énormes, mais néanmoins, il persiste encore une méfiance parce que vous n'êtes sans ignorer, monsieur, je dis, ceux qui ont la chance de nous diriger ne font pas application de la bonne gouvernance, c'est-à-dire la transparence. Et ils sont souvent, je pense que c'est eux qui utilisent ce verset qui dit à tout celui qui a, on ajoutera plus. Donc les gens, c'est tout le monde pour aider les prochains, mais lorsque ces fonds arrivent au niveau de nos dirigeants, ils n'arrivent pas à la destination ou soit au vouloir de ceux qui contribuent. Et à moi, je demanderais qu'il y ait au moins une rédévalité hebdomadaire qu'ils nous disent dans les comptes qu'est-ce qui est entré chaque semaine et comment les dépenses se passent. Comme vous l'entendez dans Parlons-en coronavirus, les organismes internationaux nous disent qu'est-ce qu'ils donnent et qu'est-ce qu'ils... Donc, si une telle pratique se fait aussi hebdomadairement, ça serait une bonne chose, monsieur Jody.
Merci Moulaya de Lumbashi. Bouchir, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, c'est monsieur Bouchir, ma tête est à partir de Kindu.
Oui, bienvenue. Quelle est votre question, Bouchir?
Monsieur Jody, présentement, j'ai trois préoccupations. La première préoccupation, j'aimerais demander à l'invité quelles sont les mesures prises aux responsables de cette caisse en cas de détournement de fonds alloués, donc au fonds des contribuables. Deuxièmement, cet argent sera mis sur les comptes privés des responsables ou bien sur les comptes des caisses de ce fonds national-là. Puis, ma troisième préoccupation, c'est un simple conseil que j'ai voulu conseiller les gens qui seront, donc les gens qui sont dans cette caisse-là, qu'ils aient l'esprit d'apostolat, papa, afin que les peuples congolais ne puissent pas souffrir davantage. Parce que vous-même, vous savez, vous êtes en train d'écouter ce qui se passe dans des pays étrangers. Hein? Les gens meurent. Mais si quelqu'un donne son argent pour aider la population en ce qui concerne les achats des médicaments, les achats des prothèses, et que sais-je. Alors, vous voulez seulement s'accaparer avec cet argent pour commencer à construire des maisons, entrer dans des bars, boire de l'alcool. Or, la population souffre. C'était juste mes trois préoccupations, monsieur Jody.
Merci, Bouchiri Dekindou. Bien, nous avons en ligne Henri-Christian Longenja, acteur de la société civile, secrétaire exécutif du collectif 24, plateforme qui milite pour le droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo. Henri-Christian, revenons d'abord à la question d'Omer depuis Yarou. Omer depuis Yarou a posé la question de savoir est-ce qu'il y aura une certaine décentralisation dans la gestion? Pourquoi ne pas recourir à Caritas qui a déjà fait ses preuves dans et qui se trouve un peu partout à travers le pays? Henri-Christian.
Oui, bon, effectivement, je dis merci au maire par rapport à même à cette proposition concrète, parce que lorsque nous parlions de la décentralisation, nous pensions vraiment qu'il faut que la gestion arrive à tous les niveaux. Alors, je sais bien que je n'ai pas voulu citer Caritas nommément, parce que pour ne pas de politiser aussi l'affaire, étant donné qu'il est un politicien qui avait aussi proposé que le fonds soit géré par Caritas, bon, pour ne pas dire qu'on prend parti de ces politiciens-là. C'est comme ça que je n'ai pas voulu expressément citer Caritas. Mais je pense bien que Caritas a fait preuve, même l'État aujourd'hui utilise Caritas pour payer les fonctionnaires, ainsi de suite. Caritas est partout et Caritas a des moyens et sait comment gérer et peut rendre bien compte. Mais ici, c'est question que on peut, si on choisissait Caritas pour réceptionner cet argent, mais cela n'empêche que l'équipe de gestion soit multi-acteur, qu'autour de Caritas, qu'on trouve aussi d'autres acteurs étatiques, tout ça qui contrôle, qu'il y ait vraiment une co-gestion. Et voilà pourquoi j'invitais même à une mutualisation, ça fait référence à Caritas, je disais pourquoi pas faire une mutualisation avec l'initiative diaconie du cardinal Ambongo et avec la Caisse nationale de solidarité pour le COVID. Donc, c'est important qu'on puisse voir le mécanisme le plus souple possible aussi. Parce que aussi dans la gestion, il ne faut pas aussi qu'il y ait trop de bureaucratie avec beaucoup de procédures, ainsi de suite. Il faut que aussi ça soit des procédures les plus simples parce qu'il est question des vies des gens. Même nous, dans les domaines d'accès à l'information, lorsqu'il s'agit d'une information qui touche à la vie de quelqu'un, en tout cas 48 heures, c'est trop, il faut qu'on donne cette information-là. Il en est même, il faut que ce soit les mécanismes très souples parce qu'il est question de vie des gens.
Bien, vous avez suivi Kinda.
Michel.
Oui, vous avez
Michel
suivi.
De la société civile de Mbandaka.
De Mbandaka.
Oui. Il y a multiplicité de la société civile.
Oui.
Comment par rapport à ces comités. Bon, mon frère, je pense bien que cette chanson-là, société civile, il y en a beaucoup, elle est plurielle. La société civile est plurielle. Mais devant l'ennemi commun, il n'y a plus de pluralité. Nous tous, nous sommes société civile. C'est question que tout le monde, maintenant, on laisse un peu nos égos de côté, qu'on pense qu'une société civile branchée de ceci, il y a assez de partis politiques, ainsi de suite. Mais ici, qu'on voit vraiment les gens qui ont, si je peux appeler, pignon sur la rue, parce qu'il y a certains qui se disent, bon, nous sommes aussi société civile, mais vous travaillez où? Alors, mais les gens qui sont connus et qui ont quand même une notoriété dans les coins, ce sont ceux-là quand même qu'il faut les accorder pour qu'ils soient là pour veiller.
au lieu d'être de se bagarrer, que ça doit être nous, ça doit être telle société civile.
Mm-hmm.
Ici, c'est vraiment, mettons ça de côté, voyons toutes les choses de la même manière. C'est de la même manière que nous invitons les politiciens. Devant cette situation, il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de Lamouka. Donc, c'est tout le monde qui doit regarder vers la même direction parce qu'il s'agit des vies des gens.
Henri Christian, Kachai de Kanyoka a dit pourquoi ne pas céder la gestion de ce fonds à la Banque centrale.
Bon, je ne pense pas que ce soit la Banque centrale qui serait mieux indiquée, d'autant plus que d'abord la Banque centrale, c'est une caisse nationale de l'État, bien sûr, mais la Banque centrale, il y a plusieurs lignes. En plus de ça, les procédures aussi de décaissement, c'est aussi très lourd. Et il est important quand même qu'on puisse décentraliser. Bien sûr, même lorsqu'on dit qu'il faut qu'il y ait un comité multi-acteur, ce n'est pas que le comité va avoir les coffres forts avec lui. L'argent sera logé quelque part dans une banque. Mais si les gens estiment que la banque puisse loger cet argent, bon, si elle loge en tant que banque, mais pas comme gestionnaire, je ne suis pas vraiment d'avis que ce soit la Banque centrale qui gère, parce qu'on sait quand même comment les choses se gèrent aussi, même au niveau des finances publiques, avec même des sorties en urgence au niveau de la Banque centrale, et parfois qui ne suivent même pas des procédures.
Bien, Kinda Derrick de Kinshasa a dit qu'il faut faire la différence entre un projet d'urgence et un projet de développement. Ici, il s'agit d'un projet d'urgence. Si on doit instaurer des procédures, un système de contrôle, ça risque d'alourdir l'exécution, parce qu'il y a, urgence. Donc, d'après lui, il faut tout simplement...
que l'urgence puisse enlever le caractère impératif du contrôle. Même s'il y a l'urgence, bien sûr, mais le contrôle doit toujours être là. Et il faut, ces questions, je dis tout à l'heure, il faut simplifier les mécanismes parce que c'est question de vie des gens, bien sûr, et ça c'est pour les décaissements, mais il ne faut pas qu'on puisse se couvrir derrière l'urgence pour qu'on nous fasse des marchés de gré à gré, on donne à telle entreprise pour nous amener des chloroquines, on donne à telle entreprise pour nous amener les réactifs ou les cache-nez ou sur les masques, ou soit les respirateurs. Mais ça doit suivre quand même les normes, mais de manière accélérée. Il faut quand même qu'il y ait la traçabilité. Parce que si on n'insiste pas sur la traçabilité et la redevabilité, nous pensons que nous allons encore plus pleurer plus que même les 100 jours, nous allons pleurer plus que même Ebola. Donc, il y a l'urgence, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait quand même les minimums stricts de respect des principes de la transparence et de la redevabilité. Et le contrôle doit être vraiment le règlement.
Voilà. Et puis, il a ajouté en disant qu'il faut tout simplement faire confiance aux animateurs, aux gestionnaires de ce fonds.
Oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. On les fait confiance parce que c'est une bonne initiative que nous avons louée, que le chef de l'État a dû prendre. Mais cela n'empêche qu'il y ait contrôle. Et donc, j'estime que même si on peut leur faire confiance, et surtout que cette confiance-là qui doit s'acheter, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, la population n'a plus confiance en nos dirigeants. Même si le dirigeant lui dit que voilà, l'ennemi à la porte, la population va dire seulement qu'il trompe. Tout simplement parce que la population n'a plus confiance. Et nos politiciens doivent travailler sur ça pour recouvrir la confiance de la population. Et le seul moyen... c'est être redevable, être transparent et laisser la population accéder à de vraies informations. Et c'est à ce moment-là que la confiance va renaître petit à petit, mais cela n'exclut pas les contrôles.
Voilà, Olivier de Bokungu a dit comment contribuer. Alors peut-être qu'on voudrait bien contribuer, mais il n'y a pas de banque ici, il n'y a rien. Comment est-ce qu'on va faire parvenir nos contributions?
Oui, bon, effectivement, par rapport à ça, je pense bien que ce sont des stratégies qu'il faut faire. C'est comme ça que nous insistons même sur la décentralisation, que la cellule travaille bien avec l'équipe de riposte pour mieux décentraliser la gestion. Et si la gestion est bien décentralisée, je pense bien que même beaucoup en tant que territoire, il y aura des équipes là. Et si on met aussi d'autres mécanismes électronique ou mobile. Je pense que partout où on est, il peut toujours contribuer.
Guillaume nous appelle de Mahagi et James de Lubumbashi. Bonjour Guillaume. Guillaume, vous êtes en ligne depuis Mahagi, bonjour. Bien, on va donner la parole à James de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bon, bienvenue, James.
J'ai dit bonjour à monsieur Jody. J'ai dit bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Sarti.
Bonjour, James. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est en deux volets. Le premier volet est sous forme d'une question que je voudrais poser à l'invité. Parce que cette question s'intitule est dans ce sens que peut-on donner la charge de ce fonds aux députés nationaux, provinciaux ou aux sénateurs pour les acheminer à la destination? Parce que il y a certains d'eux qui ont reçu le matériel de riposte au COVID-19 et qui sont allés le présenter à leur base comme étant un don que les députés et les sénateurs ont fait à la population, parce que la population est souvent sous-informée. Et le deuxième volet est sous forme d'une contribution. Je voudrais rappeler à l'invité, à tous ceux qui sont mis à cette riposte contre Ebola, que dans cette équipe-là, qu'il figure au moins des personnes capables de rendre bon service à la population congolaise en utilisant à bon escient ce fonds pour lutter contre le COVID-19, car comme ça sera un problème qui concerne l'argent, avec le système congolais, on risque de ramasser n'importe quelle personne de sa famille pourvu qu'il ait un boulot ou surtout un salaire décent. Parce que en République démocratique du Congo, c'est comme ça sera des équipes qui seront faites, qui seront constituées pour lutter contre le COVID-19. Mais parce que le chef, c'est mon oncle, le chef, c'est ma tante, le chef, c'est mon grand frère. On va commencer n'importe qui n'est même pas intelligent pendant qu'il y a des gens qui sont capables de rendre bon service à la population congolaise en vue qu'on arrive à lutter contre Ebola et qu'on arrive à lutter contre le COVID-19 et qu'on réussisse et que la situation soit calme.
Bien.
Merci, je vous remercie. C'est ça ma contribution.
Merci, James de Lubumbashi. Henri Christian Longenja.
Oui, effectivement, malheureusement, notre ami Guillaume Demain qui n'est pas là. Bon, James, est-ce qu'il faut-il donner aux députés? Je pense qu'il est bien que lui-même a donné une réponse. On ne peut pas donner aux députés, ce n'est pas leur rôle. Les députés, il est là pour légiférer. Et comme on convoque le Congrès et on fixe la date, les députés doivent maintenant couler ce que nous sommes en train de proposer là en termes de normes, en termes de lois pour que encadrer cette gestion et doit se limiter là-bas. Les députés, qui a du reste le rôle aussi de contrôle, ne peut pas s'immiscer dans la gestion en prenant de l'argent. À ce moment-là, il sera jugé parti parce que le député est appelé aussi à contrôler l'exécution de cet argent. Alors, et en plus, c'est qu'il faut éviter aussi la politisation, comme on avait vu, on prend, c'est on dit, bon, pour des faits électoraux, on dit, bon, c'est moi qui ai donné. Alors, combien de personnes voient même les critères qui placés là? Bon, c'est question d'éthique et c'est question aussi de conscience. Parce qu'avec la santé, on ne blague pas. Ici, il y a question de la santé, mais il faut distinguer qu'il y a la cellule d'une part, il y a l'équipe de riposte d'autre part. L'équipe de riposte est purement technique, mais la cellule exige une certaine capacité managériale qui permettent à ce qu'on puisse utiliser quelle stratégie pour se faire pour plus d'efficacité dans la gestion de ces fonds, pour qu'il y ait plus d'efficience en même temps. Et à ce moment-là, il faut chercher les gens. Qui placer, il faut savoir d'avance que tout Congolais a droit de participer à la gestion de la chose publique et surtout à gérer s'il a la qualité. Donc on ne peut pas exclure quelqu'un, mais ici c'est question de voir qui peut faire quoi, et c'est question de méritocratie. Le mal, c'est lorsqu'on va voir, comme on voit dans les dossiers de 100 jours, on prend son enfant, on le place là, on voit déjà par-ci par-là, parce qu'on veut mettre des tentes, c'est par-ci par-là pour des quarantaines. Alors on commence à prendre des gens, quelqu'un qui n'est même pas psychologue, on les prend, non, on forme les gens en psychologie. On ne forme pas un psychologue dans 2 ou 3 jours. et on recrute ces consorts, on dit bon, on a formé les psychologues. Mais il y a les psychologues bien formés de l'université qui savent bien comment prendre en charge quelqu'un, alors pourquoi pas les prendre? Alors, donc ce sont des cas qu'il faut dénoncer, mais j'estime bien que tout le monde peut être là, bien sûr, mais il est important qu'on puisse mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Mais maintenant, la question est de savoir, il y a l'urgence, comment trouver cette personne-là? Alors, c'est là où nous disons, si on décentralise la gestion avec les principes de gestion multi-acteurs, dans chaque strate des acteurs, ils savent qui peut faire quoi. C'est à ce moment-là que ces gens-là peuvent être délégués par leurs pairs et ça peut nous éviter ces histoires-là de prendre son épouse, son enfant, son oncle, petit frère, même s'ils ne méritent pas, on les place là parce qu'il s'agit de COVID et ça devient maintenant le COVID business que nous sommes en train de décrier.
Bien, merci Henri-Christian Dongenja, acteur de la société civile, secrétaire exécutif du collectif 24, plateforme qui milite pour le droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo. Excellente journée.
Merci Jody et merci à tous les auditeurs de Radio Capitale.